Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Le toit de l'église qui s'effondre, la vaisselle qui tombe des placards, des fissures sur les bâtiments. Un fort tremblement de terre ce midi au Teil près de Montélimar. 5,4 degrés, des secousses jusqu'à Lyon et Montpellier. Plusieurs centaines de personnes dormiront ce soir dans des gymnases. La centrale nucléaire de Cruas s'arrête par précaution. Les appels au secours et les plaintes n'ont rien changé. Encore une femme tuée par son compagnon hier soir en Alsace. Des coups de couteau. Sa fille n'a rien pu faire, vous l'entendrez. Au sommaire également ce soir, coup d'État ou pas. La Bolivie sans président depuis hier. Evo Morales introuvable. Nous sommes à La Paz. Le monument aux soldats morts en opération extérieure. Le dernier, il y a 10 jours, au Mali. Les ballots de cocaïne sur les plages de l'Atlantique. Accès interdit à la cano. Et au téléphone, sonne Fabienne, un invité unique.
Absolument. Je vous invite à dialoguer avec un homme qu'on aurait pu inviter pour parler de Mercure. Tiens, aujourd'hui, il a très longtemps eu les yeux tournés vers l'univers. Aujourd'hui, il regarde moins les autres planètes. Il a les deux pieds sur notre Terre. Il s'inquiète de son avenir. Hubert Reeves est avec nous. Posez-lui toutes les questions que vous voudrez, infiniment petites ou infiniment grandes. 01 45 24 7000.
France Inter.
Certains décrivent comme un bruit d'avion à réaction ou d'explosion. Un autre, son chien qui aboie et la secousse qui traverse les murs d'un mètre d'épaisseur de son château du 15e siècle. La terre a donc tremblé ce midi en Ardèche, 5,4 degrés sur l'échelle de Richter, ressenti de Lyon à Montpellier. L'épicentre est près du Teil, à côté de Montélimar, et Claude Vinatier habite dans le quartier le plus touché.
Il y a eu un gros bruit et puis une secousse très violente donc qui nous a secoué. Moi, j'étais en train de passer une porte, ça m'a poussé contre le mur. Les placards s'ouvrent, ce qui est à l'intérieur sort ou tombe, la pendule se décroche, etc. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Les maisons, on voit des fissures. Apparemment, il n'y a pas de blessés, donc c'est bien. Mais le toit, la cheminée en s'écroulant, elle a percé le toit quoi de la maison. Donc, on pensait pas être dans une zone sismique au niveau du Teil de Montélimar.
4 personnes sont blessées, dont une grièvement touchée par la chute d'un échafaudage près de Montélimar. La toiture d'une des églises du Teil s'est effondrée au milieu de la nef. Il y a des fissures sur la mairie et sur d'autres bâtiments publics, ainsi que des plafonds qui menacent de tomber, on l'a entendu. Écoles, collèges et lycées resteront fermés demain. Ils n'ont pas tous été vérifiés. Et environ 200 maisons de particuliers sont aussi touchées. Bonsoir Christophe Vincent.
Bonsoir.
Plusieurs dizaines d'habitants ne vont pas pouvoir passer la nuit chez eux, Christophe, mais dans des gymnases comme celui de Chamontin, où vous vous trouvez.
Oui, dans ce gymnase qui jouxte le collège du Teil, ils sont une soixantaine rassemblés au chaud, dont un tiers d'enfants, sous l'œil des bénévoles de la Croix-Rouge. Tous ont quitté précipitamment leur habitation du centre-ville à la mi-journée. La préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman, prend la parole dans ce gymnase. Elle donne la liste des rues et des interdictions d'accès, et ainsi que des consignes à ceux qui devront dormir ici et aux autres également.
Vous pouvez aller récupérer des affaires ce soir avec les pompiers pour ceux qui n'ont pas été cités là-dedans. Il faut qu'ils rentrent chez eux, il y aura des pompiers avec vous pour voir s'il y a des dégâts. S'il n'y a pas de dégâts, vous ne craignez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Si vous voyez des fissures, vous ne prenez pas de risque et vous revenez.
À l'intérieur du gymnase, les enfants ont repris leur jeu, vous pouvez les entendre, et les adultes sont à côté, comme Isabelle Memery. Elle habite tout près d'ici, au bord du Rhône, donc assez loin du centre-ville, mais elle a elle aussi cru sa dernière heure arriver et elle s'attend à passer la nuit prochaine dans ce gymnase.
J'ai vu mes énormes murs d'une vieille maison bouger. Je n'avais jamais vu des murs bouger et un plafond bouger. Et tout ce qui était accroché au mur tombait. Alors, j'ai des fissures très importantes, dont une où je peux carrément voir le jour. J'y suis retournée pour prendre des affaires et j'ai été prise de tremblement. Du coup, je me retrouve au gymnase parce que je ne veux pas retourner chez moi. Les pompiers ne sont encore pas pensés. Je préfère rester à l'abri.
Les bénévoles de la Croix-Rouge, avec leur gilet orange, sont en train d'installer des lits picots à l'intérieur du gymnase, toujours sous les yeux des enfants assez virulents. Et on attend aussi des plateaux repas, des repas chauds d'un instant à l'autre ici.
Et des gendarmes sont aussi déployés, nous dit-on, sur cette commune de 8500 habitants. Merci Christophe Vincent, en direct du Teil, pour éviter les pillages dans les quartiers où les résidents, comme on vient de l'entendre, ne peuvent pas rentrer chez eux. Le tremblement de terre a donc surpris et effrayé de nombreuses personnes. Il faut dire que 5,4 sur l'échelle de Richter, c'est un fort séisme. Pas de dégâts sur les installations nucléaires qui sont les plus proches de l'épicentre, a priori en tout cas. Cruas en Ardèche et Tricastin dans la Drôme. Mais bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Les réacteurs de Cruas sont arrêtés ce soir par précaution.
Oui, la centrale va être fermée le temps de faire des vérifications plus approfondies. Alors pour l'instant, il n'y a pas de dommages visibles, mais c'est la procédure. Principe de précaution, explique Rémi Cato, directeur des centrales nucléaires à l'autorité de sûreté nucléaire.
Ça ne veut pas dire que l'installation a été fragilisée, ça veut dire que le séisme était suffisamment important pour qu'on aille voir ce qui s'est passé sur l'installation. À ce stade, il n'y a pas eu de dommages qui ont été identifiés, mais le séisme a été suffisamment important pour qu'on doive aller voir réellement et en profondeur si l'installation est toujours en bon état.
L'arrêt d'une centrale, c'est une procédure qui peut prendre plusieurs heures. Ce soir, on ne sait pas pour combien de temps la centrale de Cruas sera à l'arrêt. C'est à l'autorité de sûreté nucléaire de donner ensuite son autorisation pour le redémarrage. Rappelons qu'une centrale est conçue pour résister à des séismes beaucoup plus importants. Hein. Un séisme de 5,2 avec une précision de taille, un séisme de 5,2 avec des calculs selon lesquels ce serait l'épicentre sous le réacteur.
On a donc plus de précisions avec vous. Merci Sandy Dauphin. L'Institut de physique du globe de Strasbourg souligne que le séisme a été d'une rare intensité. Il dépasse rarement la magnitude de 5 dans cette région. Et il met en garde, l'Institut de physique du globe de Strasbourg, il met en garde sur une possible réplique qui pourrait être de l'ordre, disent-il, de 4,5 degrés.
Il est 19h presque 7. Sébastien, une femme a encore été tuée par son compagnon hier en France.
À Oberhofen-sur-Moder, en Alsace, 131e féminicide depuis le début de l'année. Un couple en instance de divorce, une femme de 40 ans qui avait déjà déposé plainte et main courante. Elle a appelé sa fille Stella au secours au téléphone hier soir en vain. Stella qui est arrivée la première sur les lieux.
Ma mère m'a appelé cette nuit à 23h pour me dire à l'aide qu'il avait de nouveau et encore une fois caché un couteau. J'ai entendu crier, je suis partie dans ma voiture. J'ai téléphoné à la gendarmerie qui eux nous ont dit oui, on arrive. J'habite à Bichulaire, la gendarmerie est à Bichulaire. J'ai mis 3 minutes à venir jusqu'à chez ma mère. Eux n'étaient pas là avant 15 voire 30 minutes. J'ai eu le temps de défoncer la porte, d'être menacée par mon beau-père à coups de couteau, d'appeler les pompiers, de voir ma mère mourir par 4 coups de couteau, 3 dans le cou et 1 dans le ventre. J'ai vu des gyrophares, c'était les pompiers qui eux n'osaient même pas s'interposer puisqu'il était armé. La gendarmerie n'était toujours pas là. Personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous aider. À part des porter plainte, madame, porter plainte. C'est bien beau de porter plainte, mais ça aide pas.
On entend la colère de la fille de cette femme tuée par son compagnon. Colère vis-à-vis des forces de l'ordre et de la justice. Il faut dire, Solène Delarquier, que la victime s'était déjà tournée vers les gendarmes.
Une plainte il y a un mois, plainte pour menace de mort. Son mari l'avait alors menacé avec un couteau et lui avait crevé ses pneus. Avant ça, Sylvia Walter avait déjà déposé une main courante. Cela fait plus de 3 ans que le couple était ensemble. Ils avaient acheté cette maison à Oberhofen. Mais dès le début, Jackie Walter s'est montré violent, raconte Stella, la fille de la victime. Au cours de la dernière année, sa mère l'a appelée à l'aide une trentaine de fois. Elle finit par demander le divorce mais ne peut pas partir du domicile à cause du crédit. La dernière fois que les gendarmes sont intervenus, c'était vendredi soir. Sur leur conseil, la quadragénaire va dormir ailleurs. Dimanche soir, elle repasse chez elle et c'est à ce moment-là qu'il lui porte les coups de couteau fatals.
L'homme de 58 ans a tenté de se suicider après le drame. Il a finalement été maîtrisé par les gendarmes et il est en garde à vue. Dossier signé Solène Delarquier de France Bleu Alsace.
La Bolivie se réveille aujourd'hui sans président.
Le premier chef d'État indigène, élu il y a 13 ans, n'est plus en poste depuis hier. Evo Morales a démissionné sous la pression de la grève générale, des manifestations qui paralysaient le pays depuis 3 semaines et parce que l'armée a cessé de le soutenir. Alice Campagnol, vous êtes à La Paz. Alice, Morales a-t-il été victime d'un coup d'État ?
Ce sont des mots que l'on lit beaucoup dans la presse internationale, mais en réalité, ici, l'ambiance n'a pour le moment rien du coup d'État. Les manifestants, depuis 3 semaines, viennent de tous les horizons. Ce sont des jeunes, des familles, des riches et des pauvres. Et si certains veulent en découdre, c'est certain. Le discours officiel de l'opposition, c'est la manifestation pacifique. Et ce ne sont pas les militaires qui ont fait plier Evo Morales hier, mais l'accumulation de défections au sein de son parti, ajoutée aux syndicats qui lui ont tourné le dos à la pression de la rue et à la mutinerie de la police. Et si l'armée l'armée est intervenue hier. C'était à l'appel des habitants paniqués des violences en cours dans leur quartier. L'opposition réclame désormais une session du Parlement afin de nommer un ou une nouvelle présidente par intérim avant l'organisation d'élections. Il n'y a qu'Evo Morales et son ancien gouvernement pour utiliser le terme coup d'État ici.
Alors, on n'a pas de nouvelles d'Evo Morales depuis hier. Est-ce qu'on sait où il est ?
L'ancien président a dénoncé sur Twitter être l'objet d'un mandat d'arrêt illégal, ce qui a été démenti par le chef de la police hier soir. Pour le moment, il semblerait qu'Evo Morales soit dans le Chaparré, sa région d'origine où il était auparavant cultivateur de coca. Si Manuel López Obrador, président du Mexique, lui a proposé l'asile, l'ancien dirigeant a affirmé ne pas avoir de raison de fuir. Son ministre de l'Intérieur, cependant, vient de trouver refuge à l'ambassade d'Argentine. Après l'arrestation de la présidente et du vice-président du tribunal électoral hier, tous les hauts fonctionnaires craignent une chasse aux sorcières.
Alice Campagnol, depuis La Paz en Bolivie, Evo Morales a démissionné et avec lui tous ceux prévus par la Constitution pour lui succéder. Son remplaçant par intérim doit donc être nommé maintenant par le Parlement où ses partisans sont majoritaires.
Ils sont morts au Liban, au Tchad, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie ou encore au Mali.
549 militaires tués en opération extérieure depuis la fin de la guerre d'Algérie en 1963. Ils ont désormais un monument, une sculpture de bronze dans le parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. 5 hommes et une femme qui portent un cercueil invisible en guise de symbole monument inauguré cet après-midi par Emmanuel Macron. Alors qu'une autre cérémonie avait lieu à Saint-Astier, près de Périgueux, la ville d'où était originaire Ronan Pointeau, le soldat mort au Mali le week-end dernier. Cérémonie suivie pour nous par Antoine Ballandrin.
Une pluie fine tombe sur la petite place au pied de l'église. Les élus, les militaires et le public sont réunis en demi-cercle face au monument aux morts et au porte-drapeau.
Attention pour les couleurs.
Au centre, une photo de Ronan Pointeau a été déposée au sol.
Envoyez.
Avec ses décorations et un drapeau français.
Repos.
Brigadier chef Ronan Pointeau, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Mort pour la France.
La cérémonie est dédiée à l'enfant du village, tué il y a à peine 10 jours au Mali. Très droite, très digne, la famille de Ronan Pointeau est là. Elisabeth Marty, la mère de Saint-Astier, lit alors un texte écrit par son papa.
Un garçon courageux, protecteur, généreux. Ronan, mon fils, mon amour, je te dis à bientôt. Ton papa qui t'aime.
La famille de Ronan Pointeau était bien connue ici. Son grand-père a été élu à la mairie. Jean-Marie Pointeau est aussi un ancien militaire. Il raconte comment son petit-fils jouait avec son béret rouge lorsqu'il était petit.
On est avec lui depuis dimanche dernier. Je suis fier de lui et je lui présente mes respects. Voilà. Mon fils était un héros, c'est tout.
Antoine Ballandra pour ce reportage à Saint-Astier. L'hommage aux soldats morts en opération extérieure, c'était le deuxième temps fort de ce 11 novembre après la cérémonie ce matin à l'Arc de Triomphe pour la fin de la Première Guerre mondiale. Cérémonie marquée aussi par le passage de témoins entre les anciens combattants et les volontaires du service national universel. Ils étaient 15 ce matin à la flamme du soldat inconnu et certains clairchaudières prennent leur rôle très à cœur.
La pluie, le froid et surtout rester debout pendant des heures, tout cela n'a pas freiné Marion, 17 ans.
Je trouve vraiment que c'était génial pour les jeunes et tout. On a l'impression que la guerre 14-18 s'est passée s'il y a longtemps. Pour nous, c'est même irréel et tout. Et des cérémonies comme ça, on se rend compte vraiment, c'est pour de vrai.
Une grande solennité et surtout un moment quand même assez émouvant à l'appel des morts de l'année.
Frédéric Hervé a dirigé en juin dernier dans le Val d'Oise l'un des centres du tout nouveau Service National Universel et continue de suivre ce petit groupe de jeunes.
On a senti quand même un recueillement partagé par tous. Tout cet arc de triomphe qui en impose aussi, hein, pour les jeunes et pour tout le monde.
Parmi la quinzaine de participants, Evan et Chloé, fiers eux aussi d'incarner cette dimension patriotique du SNU.
Donner l'exemple aux générations qui sont en dessous de nous et qui vont plus tard le faire.
Ça s'est beaucoup perdu. Il y a très peu de jeunes qui vont venir à des cérémonies, qui vont être intéressés par ce que c'est cette cérémonie, qu'est-ce qui se passe lors de cette cérémonie. On dialogue avec des personnes qui sont plus âgées que nous, ça nous apprend énormément de choses.
Avant d'être rendu obligatoire pour toute une classe d'âge, le service national universel sera d'abord étendu à 30 000 jeunes cette année, mais il y a des points à améliorer, notent les chercheurs de l'Institut National de la Jeunesse dans un rapport publié hier. La formation des encadrants par exemple insuffisante, des cours un peu trop magistraux, à noter aussi une surreprésentation de volontaires dont un parent travaille dans l'armée, d'où des attentes très militaires. Un SNU première année qui aura suscité une forte adhésion, 94% des volontaires se disent satisfaits.
Reportage de Claire Chaudière. La Turquie met sa menace à exécution. Elle expulse des djihadistes étrangers du groupe État islamique vers leur pays d'origine. Un Américain aujourd'hui, 7 Allemands jeudi et 11 Français dans les prochains jours. Ankara assure qu'elle a capturé 287 combattants étrangers et échappé de prison de Daesh depuis le début de son offensive dans le nord de la Syrie. Encore une journée particulièrement violente à Hong Kong, l'une des plus chaotiques depuis le début de la contestation il y a 5 mois. Un manifestant blessé par balle à bout portant par un policier. Un homme qui s'opposait aux contestataires aspergé de liquide inflammable et transformé en torche humaine. Les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et entretiennent la colère des militants pro-démocratie qui organisent par ailleurs tous les jours des veillées depuis la mort d'un autre étudiant de 22 ans la semaine dernière, tombé lui d'un parking pendant des affrontements avec les forces de l'ordre. Bref, des violences, puis une conférence de presse de la chef de l'exécutif Carrie Lam aujourd'hui. Mais rien de concret, Florence de Changy, pour apaiser les tensions.
En dépit des circonstances alarmantes, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, n'a ni proposé de renouer le dialogue, ni de changer son équipe. Carrie Lam a en revanche balayé l'idée d'une commission d'enquête indépendante dans les violences policières, malgré les déclarations d'un expert international estimant ce week-end que la commission interne de la police n'avait pas les moyens ni la structure nécessaire pour enquêter correctement sur les abus policiers. Non, Carrie Lam a simplement condamné la violence. Elle a surtout dit qu'elle n'avait aucunement l'intention de céder quoi que ce soit aux manifestants.
Enfin, s'il y avait encore la moindre illusion qu'en aggravant la violence, le gouvernement de la région administrative spéciale finirait par céder à la pression et aux soi-disant demandes politiques, je le déclare haut et clair ici, cela n'aura pas lieu. La violence ne va pas apporter la moindre solution. Notre priorité actuelle est d'arrêter la violence et que Hong Kong revienne à la normale dès que possible.
Carrie Lam n'avait pas fini de parler que les canons à eau inondaient d'un liquide désormais non seulement teinté et irritant, mais également lacrymogène. Les manifestants rassemblés sur Nathan Road. Pour demain, le mouvement appelle à bloquer tout le trafic et demande aux Hongkongais de ne pas se rendre au travail. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Une première médaille pour la France aux mondiaux d'athlétisme handisport à Dubaï. L'or pour Timothée Adolphe et son guide en 400 mètres. Celui que ses collègues surnomment le guépard blanc est aveugle. Les plages de l'Atlantique, toujours arpentées par les policiers et les gendarmes, près d'une tonne de cocaïne en ballot récupérée en quelques jours. Peut-être le naufrage d'un bateau de trafiquants avec le mauvais temps. Le parquet de Rennes a ouvert une enquête. En attendant, les curieux sont toujours aussi nombreux, attirés par une possible pêche miraculeuse, même si elle est évidemment dangereuse et interdite, comme ici à Lacanau, où les promeneurs, Stéphane Hiscock, sont partagés sur l'intérêt d'un tel arrêté.
Des barrières empêchent l'accès à la plage centrale, un arrêté est affiché. Considérant l'échouage de paquets contenant des matières dangereuses pour la santé et la sécurité, le littoral est interdit aux promeneurs, signé le maire de Lacanau. Devant la plage, de nombreux badauds préfèrent en rire.
Ah oui, je sais, c'est par rapport au... Oui, à la drogue, ouais. C'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est dommage parce que moi j'en aurais bien récupéré.
Oui, on a entendu parler de cocaïne.
C'est pour ça que vous êtes là ?
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est là. Il en reste ? Par contre, on est un peu embêtés. On en parlait hier soir, on ne sait pas à qui revendre. On n'a pas de tuyaux. Bon, vous en avez ?
Blague à part, ramasser un ballot de cocaïne sur la plage peut vous envoyer en prison pour 10 ans. Les promeneurs sont avertis. Le maire de Lacanau, Laurent Perrondet.
Ils ne sont pas obligatoirement des gens qui consomment de la cocaïne, mais bon, on annonce de la cocaïne à grand renfort de publicité sur les chaînes, donc c'est vrai que ça les attire un peu pour venir voir si finalement il y en a partout. Il n'y en a pas à Lacanau, mais depuis la pointe de Grave, c'est quand même 80 et quelques kilos qui ont été trouvés jusqu'au Cap Ferret.
La gendarmerie demande au public de signaler tout échouage suspect et surtout de ne rien toucher. La marée blanche n'a sans doute pas encore déversé. C'est tous ces paquets.
Et puis si vous l'avez raté, la prochaine fois ce sera en 2032. Mercure, la plus petite planète de notre système solaire, est passée devant le Soleil ce midi. Pas une éclipse mais un transit, disent les astronomes. Ouais, enfin, c'était un tout petit point noir, oui, qui est passé devant le Soleil. Il paraît que ça se voyait avec les jumelles. Mercure, les astres mais aussi notre bonne vieille Terre. Vous en parlez au téléphone sonne, Fabienne.
Et oui, absolument, avec notre invité Hubert Rives qui arrivera dans un instant. Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve demain. On regarde quand même ce qui se passe derrière la fenêtre. Et Elodie Calac, les pluies se décale vers l'est ce soir.
Oui, sur les régions de l'est, en effet. Alors, on attend même de la neige vers 700-800 mètres sur les massifs ce soir et cette nuit. Demain, beaucoup de nuages et des averses. Alors, le matin, ce sera souvent bien encombré avec quelques averses près de l'océan, sur le sud-ouest, de la Manche jusqu'au nord de la Seine également. Elles seront plus nombreuses et parfois orageuses vers la Normandie. L'après-midi, le risque d'averses s'étendra du sud-ouest vers le nord-est. Ce sera un risque plus marqué toujours près de la Manche et également près des Pyrénées. Et puis, toujours de la neige en montagne vers 800 mètres sur les Vosges, le Jura, 1000 mètres pour le massif Massif central et 1400 sur les Pyrénées.
Ce sera mieux vers le sud-est en revanche.
Oui, on aura du soleil de la Méditerranée aux Alpes et en Corse avec du vent, Mistral, Tramontane, jusqu'à 90 km à l'heure. On aura des éclaircies également du sud de la Bretagne vers les pays de la Loire jusqu'au bassin parisien et à la frontière belge l'après-midi. Et puis il fera toujours un peu frais, moins 2 à 3 degrés sur l'est et le Massif central le matin, 3 à 10 ailleurs. L'après-midi, comptez 7 degrés à Metz, 9 à Paris, à Lyon, 12 à Nantes et à Agen et 17 du côté de Nice.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie.